Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgaard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, réaction sur le retrait des États-Unis au Conseil des droits de l'homme. Présentation d'un nouveau document peu optimiste sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Enfin, nous marquerons la Journée mondiale des réfugiés avec plusieurs témoignages. Nous commençons avec les réactions au retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme. Le secrétaire général a déclaré mardi qu'il aurait préféré que ce pays reste au sein de cet organe. L'architecture des droits de l'homme de l'ONU joue un rôle très important dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde entier, a-t-il déclaré par l'intermédiaire de son porte-parole. À Genève, le président du Conseil des droits de l'homme, Vojislav Šuk, a lui aussi déploré ce mercredi le retrait des États-Unis de l'organe onusien. Pour lui, il est essentiel de maintenir un Conseil des droits de l'homme fort en reconnaissant son rôle central au sein des Nations Unies.
Comme je l'ai déclaré hier dans un communiqué de presse, même si je reconnais que c'est la prérogative de tout État membre de prendre une telle décision, mais à une époque où les valeurs et la force du multilatéralisme et des droits de l'homme sont remises en question de façon quotidienne, il est essentiel au XXIe siècle de maintenir un Conseil des droits de l'homme fort en reconnaissant son rôle central au sein des Nations Unies. Nous ne devons jamais perdre de vue le fait que le Conseil est le seul organe intergouvernemental qui répond aux problèmes et aux situations des droits humains dans le monde entier avec la participation active de la société civile. Je suis fier de diriger un conseil qui a contribué à régler de nombreux problèmes concernant les droits de l'homme durant ces 12 dernières années. Dans de nombreux cas, le conseil sert de système d'alerte précoce en tirant la sonnette d'alarme avant des crises imminentes ou celles qui s'aggravent. Ces actions aboutissent à des résultats significatifs pour les innombrables victimes des droits de l'homme dans le monde entier, celles pour qui le conseil œuvre.
Les Nations Unies ont publié ce mercredi le rapport 2018 sur les objectifs de développement durable. Ce rapport prévient que le changement climatique, les conflits, les inégalités, la persistance de la pauvreté et de la famine et l'urbanisation rapide remettent en question les efforts des pays pour atteindre ces objectifs. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Le nouveau rapport sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable montre que les conflits et le changement climatique ont été les principaux facteurs contribuant à un nombre croissant de personnes confrontées à la faim et aux déplacements forcés. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, le nombre de personnes qui ont faim dans le monde a augmenté, passant de 777 millions en 2015 à 815 millions en 2016. Selon le rapport, les conflits sont désormais l'un des principaux moteurs de l'insécurité alimentaire dans 18 pays. Le changement climatique et les conflits ont aussi été un frein important au progrès vers l'accès universel aux services d'eau et d'assainissement. En 2015, 2,3 milliards de personnes n'avaient toujours pas accès à un niveau basique d'assainissement et 892 millions de personnes ont continué à pratiquer la défécation à l'air libre. Mais le rapport n'est pas complètement négatif. Il constate que plus de gens mènent une vie meilleure qu'il y a 10 ans. La proportion des travailleurs dans le monde faisant vivre leur famille avec moins de 1,90 $ par personne et par jour a considérablement diminué au cours des deux dernières décennies. Le taux de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans a baissé de près de 50% et dans les pays les moins avancés, la proportion de la population ayant accès à l'électricité a plus que doublé entre 2000 et 2016.
Réfugiés, réfugiés.
Aujourd'hui, 20 juin, nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés. Plus de 68 millions de personnes étaient déplacées en 2017, un record pour la cinquième année consécutive, selon un rapport du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Pour certains de ces réfugiés, le chemin a été long, mais ils ont pu trouver refuge dans un pays d'accueil. Comme nous l'explique Hamjed, il est irakien, âgé de 12 ans et est en cinquième au collège en France. Au micro de Théa et Tristan, d'Eco Radio, la radio des réseaux associés de l'UNESCO, du collège Vincent Van Gogh de Blénaud, les Ponts-à-Mousson, il nous donne son témoignage.
Je suis d'origine irakienne. Je vais dans une ville près de Bagdad qui s'appelle Radouania. Nous avons une belle maison. En 2014, Daesh est revenu en Irak. Ils ont attaqué notre maison et tué mon oncle qui habite avec nous dans le même maison. Ils ont tiré beaucoup de coups de feu sur la maison. Nous sommes vite sauvés sans rien emporter. Nous étions poursuivis par Daesh partout. parce qu'ils veulent nous tuer. Ensuite, nous avons traversé la mer dans un petit bateau gonflable. Il y avait beaucoup de monde dans le bateau pour aller en Grèce. Ensuite, nous sommes entrés en France. On nous a permis d'en vivre en France. Je me sens en sécurité ici en France.
Réfugiés.
Retour sur la Journée mondiale des réfugiés, le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, se trouve sur le terrain au Niger, dans le même avion que des personnes évacuées de Libye. Ces demandeurs d'asile attendent d'être réinstallés en Europe ou en Amérique du Nord. À Niamey, ces réfugiés nouvellement arrivés seront hébergés dans des maisons de transit ouvertes par le HCR. Romain Descloux est le porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Ouest. Il accompagne le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés. Il nous parle de la célébration de cette journée, de son expérience sur le terrain, mais aussi des défis.
Aujourd'hui, pour la Journée mondiale du réfugié, c'est à Niamey, au Niger, que nous sommes, avec le haut-commissaire lui-même, Filippo Grandi. Nous célébrons la résilience des réfugiés, mais aussi l'extraordinaire générosité des communautés et des personnes qui les accueillent. Justement, à Niamey, hier soir, nous avons procédé à l'accueil d'un avion en provenance de Tripoli, en Libye, avec à son bord une centaine de réfugiés et demandeurs d'asile parmi les plus vulnérables. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a pu les extraire de centres de détention en Libye, dans lesquels ils étaient dans des conditions déplorables, terribles. Maintenant, ils vont pouvoir se reconstruire, grâce à la solidarité des Nigériens, pouvoir avoir accès à une aide psychosociale, avoir accès aussi à la possibilité d'espérer de nouveau, d'être réinstallés vers un des pays qui leur offre l'accueil. Le Niger, justement, ce n'est pas que la solidarité vis-à-vis de ces 1 000 et quelques réfugiés évacués de Libye. Le pays accueille 166 000 réfugiés à ce jour. Des réfugiés qui fuient la crise du nord-est du Nigeria, des réfugiés qui fuient l'insécurité et la crise du Mali. Et il y a aussi beaucoup de déplacements, des déplacés internes qui fuient ces mêmes insécurités, ces mêmes zones. Sur au total, plus de 300 000 personnes en Niger seulement, qui sont sous le mandat du HCR. Et c'est ça, ce qui marque, ce qui donne envie de travailler, c'est de pouvoir voir l'impact que vous avez sur ces personnes.
Romain Descloux, quels sont les défis que vous rencontrez ?
Les défis ? C'est justement celui-ci, celui d'aider un pays à faire face à cette demande, 160 000 réfugiés, déplacés internes, un pays qui fait face lui-même à une insécurité dans certaines zones frontalières avec les autres pays en crise. Comment nous pouvons l'appuyer et faire en sorte que la solidarité qu'il offre soit durable, parce qu'elle est remarquable.
Qu'est-ce qui vous a marqué ces 12 derniers mois ?
Ce qui m'a marqué le plus ces 12 derniers mois serait deux choses. La première, c'est justement ces personnes que nous évoquons de Libye. Personnes qui vous racontent le périple qu'ils ont fait, les atrocités qu'ils ont vues, les amis qu'ils ont perdus, mais aussi les tortures qu'ils ont subies. L'espoir qui renaît dans leurs yeux quand on est avec eux, qu'on les extrait de ces centres de détention et qu'on les voit ici à Niamey, au Niger, où ils savent qu'ils peuvent se reconstruire, qu'ils ont la chance d'espérer, et qu'ils vont avoir une communauté prête à les accueillir. C'est ça cet espoir, cette solidarité que nous célébrons et qui fait chaud au cœur. Autre chose qui m'a marqué, c'est au nord-est du Nigeria, à Maïdougouri, le conflit Boko Haram a fait un nombre de victimes très important. Dans l'ensemble du lac Tchad, il y a près de 2 millions de personnes déplacées. Et pourtant, à Maïdougouri même, il y a l'espoir, il y a la chance de se reconstruire avec ces écoles qui accueillent des orphelins dont les parents étaient soit dans les forces armées, soit auprès de Boko Haram, soit des victimes civiles. C'est ça. C'est cette possibilité de voir un dialogue, de voir ces enfants qui font l'avenir, qui pourront reconstruire le pays et faire fi de ces différences. C'est ça qui donne l'avenir.
Combien de réfugiés y a-t-il en Afrique de l'Ouest et que fait le HCR pour aider ces réfugiés à se reconstruire ?
En Afrique de l'Ouest, c'est presque 286 000 réfugiés qui sont actuellement accueillis dans l'un des pays. C'est aussi beaucoup d'espoir et la possibilité pour eux d'avoir une intégration au niveau des communautés de ces pays qui les accueillent. Et quel meilleur exemple que la Guinée-Bissau ? Qui justement est à ce jour en train d'offrir la nationalité à des réfugiés qui étaient là depuis très longtemps. Cet espoir, c'est ça l'intégration, c'est l'une des solutions que nous promouvons et qui fait que les réfugiés, où qu'ils soient, aient la possibilité de se reconstruire.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info, à retrouver sur Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Réfugiés. Réfugiés.